Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
6 minutes pour trancher.
Bonjour Bertrand Hourcade.
Bonjour.
Vous êtes géographe et spécialiste de l'Iran. Bonjour Chassavar.
Merci, bonjour.
Vous êtes fondateur des Lettres Persanes, journal en ligne avec notamment une revue de presse traduite en français des journaux iraniens. Merci à l'un et à l'autre d'être avec nous ce matin en direct dans ce studio. Cette escalade de la violence entre l'Iran et Israël vous inquiète-t-elle autant que notre ministre des Affaires étrangères qui dit ce matin qu'il s'agit d'une situation extrêmement dangereuse? Bernard Hourcade.
Oui, c'est évidemment très dangereux dans la mesure où la guerre en Syrie a fait déjà beaucoup de morts et qu'aujourd'hui c'est donc l'Iran et l'Israël, deux États qui sont en confrontation directe, qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, où la guerre était par pays ou groupe interposé. Donc c'est grave, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y aura pas de guerre entre les deux nations, et s'il y a quand même 1500 km de différence entre les deux pays, l'Iran ne peut pas envahir Israël et l'Israël ne peut pas envahir l'Iran. Et donc il faut bien, je crois, considérer que ces événements sont des questions de frontières, pour la sécurité des frontières d'Israël, et qu'il y a les moyens de régler la question. Je ne pense pas que ce conflit puisse se développer.
Il n'y aura pas de guerre entre les deux nations. C'est votre première analyse dans ce débat ce matin.
Les deux nations sont en guerre verbale, psychologique, mais guerre militaire, c'est exclu. L'Iran sait très bien qu'il est 100 fois moins puissant qu'Israël, donc il s'amuse un petit peu à provoquer, mais pas à faire la guerre.
Vous partagez la même analyse, Chassava?
Je pense que sur le plan militaire, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Israël a bombardé les bases militaires syriennes soupçonnées d'accueillir les forces iraniennes depuis 2013 au moins 40 fois. Et l'Israël est présent aux portes de l'Iran depuis il y a cinq ans en Azerbaïdjan. Si les deux pays avaient l'intention de vraiment une escalade militaire, ce serait déjà passé.
On assiste, selon vous, à un théâtre d'ombre. Je veux dire, les guerres commencent toujours avec un théâtre d'ombre. On dit, de toute façon, ils font de la provocation, ils vont s'arrêter jusqu'au moment où il y a une gifle en trop.
Aujourd'hui, l'Iran cherche à consolider la paix pour profiter sa position de force,
oui,
au Liban, en Irak, en Syrie et au Yémen. L'Iran n'a pas aucune intention et aucun intérêt d'aller vers un escalade. Mais par contre, Israël, je ne dis pas Israël, je dis Netanyahou, ça lui arrange un ennemi extérieur pour s'arranger les affaires intérieures dans son pays. Et ce qui se passe, ce qui s'est passé en Iran à l'époque d'Ahmadinejad, mais ce n'est plus le cas parce qu'il y a un président modéré réformiste en Iran qui n'a pas l'intention de faire de la guerre.
La confrontation armée entre l'Iran et Israël via le territoire syrien tel que vous venez de la décrire est-elle aussi une conséquence du retrait américain de l'accord nucléaire? Bernard Hourcade.
C'est évident que l'événement important, c'est ça. C'est le fait que clairement les États-Unis, qui ne respectaient pas l'accord sur le nucléaire, c'est-à-dire les entreprises françaises, allemandes ou italiennes qui allaient en Iran, devaient se garantir que les Américains ne les sanctionneraient pas, qu'ils ont fait sur la BNP, qui a payé 9 milliards de dollars d'amende.
C'est faramineux.
C'est faramineux. Et donc maintenant Trump le faisait, maintenant il le dit clairement. Et donc la conséquence, elle est là. C'est la première fois qu'un pays dit « je ne respecte plus les lois internationales signées par tout le monde ». Les États-Unis se retirent de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Donc, parce que je suis le lion, je fais ce que je veux. Et là, c'est un défi nouveau qui dépasse, qui a des conséquences partout, y compris militaires sur le Golan. Mais ça veut dire qu'il y a maintenant un rééquilibrage des forces, un déséquilibre des forces, où les Occidentaux, ça ne veut plus rien dire. Il y a les Américains d'un côté et les Européens. La guerre est économique. Et on a vu les communiqués des entreprises françaises qui sont à Téhéran aujourd'hui. Ils ont dit « je suis Peugeot, je suis Renault, je suis Alstom. Qu'est-ce que je fais? J'ai investi depuis 3 ans, j'ai des milliards de dollars engagés et protégez-moi ». Et donc les entreprises, et c'est l'enjeu est ici, disent « nous avons travaillé sur l'Iran qui est en train de se développer et si on ne nous protège pas, c'est une catastrophe pour l'emploi en France, en Allemagne ou en Italie ».
Ça explique aussi les propos hier d'Angela Merkel disant « nous ne serons plus jamais protégés par les États-Unis ». Enfin, je le dis avec mes mots, mais c'est exactement ce qu'elle a exprimé.
Ça. C'est fini. Les États-Unis, qui étaient le grand protecteur du monde depuis 1945, ne sont plus le grand protecteur du monde parce que les Européens disent « désolé, mais j'ai le droit de commercer avec qui je veux ». Et la balle est dans le camp européen désormais. C'est une vraie guerre économique, mais qui change beaucoup de choses.
Alors, Israël ne veut pas de relations normalisées avec l'Iran, selon vous? C'est ce que vous nous avez suggéré il y a quelques instants.
Ce n'est pas Israël. En Israël, il y a la division. Il y a la droite dure, Netanyahou.
Ça veut dire que c'est un pays démocratique, puisqu'il y a la division.
Exactement. C'est le cas en Iran aussi, c'est-à-dire qu'en Iran, il y a une division. Mais là, maintenant, aujourd'hui, en Iran, ce sont des réformistes, des modérés qui ont la main sur la diplomatie. Mais en Israël, c'est l'inverse, ce sont des durs qui gouvernent. Et c'est une confrontation entre les durs en Israël et les modérés en Iran. L'Iran essaye de maintenir le dialogue, la diplomatie, régler les problèmes de la région par la diplomatie, alors qu'Israël, Netanyahou, n'a pas du tout envie. Et ce qui est changé depuis un an, c'est l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Et c'est ça qui a poussé Israël et l'Arabie Saoudite, pareil, d'être agressifs.
Que recherche Israël précisément, selon vous, Bernard Ourcade ?
Israël cherche à être tranquille dans son territoire, à être sécurisé, c'est une évidence. Mais ils estiment qu'aujourd'hui, la question nucléaire étant réglée, tout le monde sait, l'armée israélienne et le Mossad disent l'accord sur le nucléaire était un bon accord parce que ça permet d'être tranquille pendant 10 ans au moins. La question n'est pas là, c'est un prétexte. Mais Israël craint, comme l'Arabie Saoudite, d'avoir un Iran de 4 millions d'habitants, fort, une grande nation historique, qui présente des films à Cannes, une nation puissante sur le plan politique, qui pourrait être un challenger assez important contre Israël en matière de politique en Palestine, etc., que n'est pas un Iran voyou qui s'amuse à lancer des drones ou quelques missiles.
Mais l'Iran est une grande nation.
Potentiellement. Mais pour l'instant, l'Iran est un petit pays militairement.
Mmh. Sauf qu'en fait, cette grande nation a traité depuis 40 ans de manière indigne. Et là, beaucoup
parce qu'elle avait des dirigeants qui aussi parfois pouvaient avoir des comportements
tout à fait
plus qu'indignes.
Bien sûr, comme beaucoup d'autres dirigeants.
On ne parle pas du peuple iranien, on parle de ses dirigeants, bien entendu.
Comme des dirigeants israéliens, comme des dirigeants américains. Mais là, aujourd'hui, on ne traite pas les États-Unis pour ne pas respecter ses engagements à cause d'un président. Mais on fait ça avec l'Iran, alors que c'est l'Iran qui a respecté, selon tous les instants internationaux, ses engagements et ça crée une révolte chez beaucoup des Iraniens.
Plus de 10 visites, je le rappelle, de l'AIEA qui à chaque fois a confirmé qu'en effet
11 fois.
Voilà. Merci de le rappeler, pardonnez. Bernard Ourcade.
Vous avez tout à fait raison de dire que l'Iran est loin d'être un ange. L'Iran, depuis 40 ans, a mené des actions jadis terroristes, a assassiné des gens à Paris, a assassiné notre collègue Michel Essora au Liban, etc. C'était il y a 30 ans. Et Dieu merci, les rapports de force ont changé. Et aujourd'hui, l'Iran et les responsables iraniens savent que leur intérêt politique, c'est non pas d'aller titiller Israël, ils sont vaincus d'avance de ce côté-là, mais d'être une nation forte. D'où cette volonté d'avancer. Mais il y a en Iran 20%, 25% du Parlement qui est tout opposé à cela et veut la guerre à outrance. Et donc, il y a ce rapport de force politique. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir qu'on a en Iran un pays qui a fait l'expérience de l'islam politique, du terrorisme, etc. Et ils ont évolué parce que la société iranienne a évolué et a imposé aux radicaux l'accord sur le nucléaire. Ils n'en voulaient pas, l'accord du nucléaire. Ils l'ont imposé. Le rapport de force est en train de changer. Et donc, on a là ce seul pays de la région qui a un potentiel de stabilité. C'est loin d'être arrivé, mais un potentiel de stabilité.
Vous nous dites que Donald Trump et l'actuel dirigeant de l'État d'Israël menacent le début de paix qu'on pouvait espérer dans cette région.
Tout à fait. Parce qu'ils veulent faire ce qui s'est passé en 2003. Et John Bolton, qui est le nouveau conseiller diplomatique de sécurité de Trump, est un homme détesté aux États-Unis, quelqu'un de vraiment dangereux, même chez les Républicains. Et il veut faire comme en 2003. Il s'agit de rayer l'Irak de la carte. Et donc, à cette époque, Chirac était contre et Philippin aussi. Aujourd'hui, la question est de déstabiliser l'Iran pour que l'Iran soit un pays médiocre, avec un grand potentiel, mais qui n'est pas développé, et qui, pendant 15 ans encore, sera, par les divisions politiques intérieures, l'absence de développement économique, un pays qui n'émergera pas.
Parfois, quand on bouscule les choses, même si ça ne semble pas sur le papier initialement la bonne méthode, on arrive à des résultats. C'est ce qui vient de se passer avec la Corée du Nord et avec la politique de Donald Trump. Est-ce que ça ne peut pas être le cas aussi dans cette région concernant l'Iran et Israël ? Même si ça ne correspond pas aux codes, aux usages que l'on souhaite voir pratiquer habituellement, notamment dans une planète dangereuse et où le plus important est normalement de se parler sous l'instance des Nations Unies.
Moi, je le souhaite, mais concrètement, je ne pense pas que ça arrive bientôt parce qu'en Iran comme en Israël, les deux camps qui profitent de ce conflit ont du pouvoir. Et moi, je pense que la seule chose qui est très importante en Iran, c'est que l'Iran a l'expérience de 8 ans de guerre tout seul. Et du coup, de la même façon que l'Israël, et c'est très compréhensible que l'Israël ne se sent pas en sécurité, l'Iran, pareil, ne se sent pas en sécurité parce que pendant ces 8 ans de guerre, il n'y avait aucun pays qui a soutenu l'Iran à part la Syrie. Et les Iraniens ne veulent pas de la guerre. Et encore, il y a beaucoup de familles qui ont perdu leur... moi, j'ai perdu mon frère pendant la guerre, l'Iran et l'Irak. Et l'histoire est encore présente dans ma famille. Et les Iraniens ne veulent pas, même si je ne suis pas fan de pouvoir en place en Iran, mais on ne veut pas de la guerre.
Les Iraniens ne veulent pas de la guerre. On va se séparer après cette dernière prise de parole de Chassavar. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes fondateur des Lettres Persanes. Merci aussi Bernard Ourcade d'être venu nous voir ce matin. Vous êtes géographe et spécialiste de l'Iran.